fait la matière seule. Mais c'est la matière quantifiée. Voilà le principe d'individuation. C'est la matière quantifiée. Parce que la quantité apporte la divisibilité, donc apporte la juxtaposition. Par la quantité, on est extérieur les uns aux autres. Tandis qu'on n'est pas extérieur les uns aux autres par le point de vue de notre âme spirituelle. Notre âme spirituelle n'a pas de lieu. Alors, elle a un lieu maintenant puisqu'elle informe notre corps, et par notre corps, elle a un lieu. Mais notre âme spirituelle, comme telle, n'a pas de lieu. Et la matière, en tant que principe indivisible, n'a pas de lieu. C'est par la quantité que je suis localisé. C'est par la quantité que je suis juxtaposé, que j'ai des parties diverses et une certaine organisation dans ces parties. C'est par la quantité. Et donc, c'est le point de vue de la matière et de la quantité. Et saint Thomas précisera encore, ce n'est pas la quantité en tant qu'elle est achevée, c'est la quantité en tant qu'elle est capable d'être achevée. Pourquoi ? Parce que l'individu est le même quand il est dans le berceau et quand il est arrivé à l'âge pleinement développé. Autrement dit, vous êtes le même individu avant d'entrer au couvent et après d'être entré, même après un carême où vous avez perdu 10 kilos. Il y a le même individu. La quantité, on a pris un gros coup, mais le même individu, c'est le même individu. Vous n'allez pas dire, j'ai changé d'individu parce que j'ai maigri de 10 kilos. Alors votre individuation serait dans vos kilos. Votre individuation, c'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus radical, c'est quelque chose de substantiel. Ça touche votre substance, votre individuation. Et pourtant, c'est ce qui vous distingue des autres. C'est donc la quantité non terminée. La quantité signata uniquement, mais non terminée. La quantité qui uniquement apporte la divisibilité et apporte les dimensions. Mais sans que ce soit achevé, parce qu'autrement, l'individu changerait. Or, l'individu est le même malgré la croissance. L'individu est le même, même quand il y a dépérissement. C'est le même individu. Et donc, c'est la quantité uniquement avec ses dimensions, les trois dimensions de la quantité, mais non achevée. Alors, vous voyez que ça paraît très curieux. En face de la thèse de saint Thomas, il y aura la thèse de Don Scott. Ça, c'est point de vue scolastique, les deux thèses sont mises en opposition l'une vis-à-vis de l'autre. Don Scott dit que c'est impossible que l'individuation vienne de la matière et de la quantité. Parce qu'on est individualisé dans tout notre être. Si on est individualisé dans tout notre être, il faut donc que l'individuation touche aussi la personne. Et c'est pour ça que Don Scott dira, attention, il y a l'unité spécifique, mais chacun d'entre nous, nous avons l'ekcheitas. C'est un mot qu'il a inventé. L'ekcheitas. Nous sommes ceci dans notre âme spirituelle. Notre âme spirituelle a quelque chose d'unique. Alors, vous voyez, là, l'unité spécifique en prend un gros coup. Parce que si chacun d'entre nous, nous avons notre petite spécialité originale dans notre substance, nous ne sommes donc pas exactement la même unité spécifique. Oui, voilà les deux grandes thèses. Hein. Les deux grandes thèses des deux grands théologiens, saint Thomas et Don Scott, tous les deux qui veulent vraiment essayer de réfléchir. L'ecceitas chez Don Scott, c'est donc la forme poussée jusque dans son ultime détermination. L'ecceitas, c'est l'ultime détermination. Alors, les thomistes ont dit, ah non, Don Scott confond l'homme avec les anges. Les anges sont individualisés quant à leur forme. Il y a la gabriélité, qui est l'ecceitas de Gabriel. Non, Gabriel a la gabriélité. Chaque ange est unique dans son espèce. Alors ça, c'est beaucoup plus facile. Parce que chaque ange étant unique dans son espèce, il n'y a pas d'unité spécifique chez les anges. C'est comme ça qu'il n'y a pas de communauté naturelle des anges. Les anges sont des solitaires, naturellement. Et ils sont en communauté par la grâce. C'est la grâce qui fait que les anges sont en communauté. Oui, de temps en temps se dire ça, ça nous. Oui. Et c'est par la grâce qu'ils sont en communauté. Autrement, naturellement, ils sont des solitaires. Parce qu'ils sont des contemplatifs, par leur nature. Alors ils sont solitaires. Ils sont uniques dans leur espèce. C'est très agréable d'être unique dans son espèce. Donc on est immédiatement rattaché à Dieu. Et tandis que nous ne sommes pas uniques dans notre espèce. C'est très très gênant. Nous sommes dans l'espèce humaine une multiplicité, pauvre espèce humaine. Elle est dilapidée, vous voyez, dans tous les individus, l'espèce humaine. Je n'ai pas le droit de dire je suis plus homme que mon voisin. Il n'y avait que Jean-Jacques Rousseau qui avait le droit de dire ça. Ce que Jean-Jacques Rousseau dit dans ses confessions, regardez-moi et vous comprendrez ce que c'est que l'homme. Il avait un toupet monstre. Vous voyez, il se faisait comme un ange. Regardez-moi, il se faisait comme la Gabriélité. Alors Jean-Jacques Rousseau était l'Echeitas de l'homme. Oui, c'est ça, c'est l'Echeitas de l'homme. Il était un peu scotiste. N'est-ce pas ? Regardez-moi, vous comprendrez ce que c'est que l'homme. Je ne veux pas dire ça. Je représente une partie de l'humanité. Mais je ne suis pas l'homme. Il n'y a que le Christ qu'on peut dire l'homme de douleur. Il n'y aurait qu'un seul qui aurait le droit de dire « Regardez-moi, vous comprendrez ce que c'est que l'homme. » C'est le Christ. Parce qu'en lui, il y a une individualité telle que ça rejoint, d'une certaine manière, la perfection de l'homme. Il est le seul homme parfait. Et c'est très important, tous ces problèmes-là. Ça se tient, c'est le problème de l'individuation. Alors, voyez, position de Don Scott, position de saint Thomas. Saint Thomas est réaliste. Et le réalisme de saint Thomas va jusqu'à dire que l'individuation vient de la matière et de la quantité. Et Don Scott, il est en partie sous l'influence d'Avicenne, en partie sous l'influence de Henri de Gand, et donc il est assez néoplatonicien. Et c'est pour ça que lui considère que l'individuation vient de la forme, vient de l'âme spirituelle. Bien, je crois qu'il faut être très, très... C'est intéressant ça comme position théologique. Il faut essayer de comprendre que le théologien dit ça lui... À partir de l'âme. Oui, ça c'est la position du théologien. À partir de l'âme créée par Dieu. Le philosophe ne peut pas dire ça. Le philosophe pourrait revenir ça dans une vision de sagesse. Mais le philosophe ne peut pas dire ça. Le philosophe doit essayer de comprendre comment le problème du le comment de l'individu, le comment de la substance, c'est la substance qui assume la matière. Et donc, d'une certaine manière, je ne peux parler du comment que lorsque je suis en face d'une substance qui assume la matière. L'individu, c'est donc les deux ensemble. Je ne peux pas dire que l'individu au niveau philosophique, c'est uniquement la matière, pas du tout. C'est la matière informée. C'est la quantité déterminée par la substance. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est très important, parce que la position du théologien, celle de saint Thomas, je crois qu'elle est juste, mais on la comprend très mal, parce qu'on essaie de la comprendre philosophiquement. Or, c'est pas ça du tout, c'est théologiquement. Et du point de vue théologique, évidemment, on regarde comment la forme va s'individualiser. Alors, quand on dit principe d'individuation, c'est la matière et la quantité, faisons attention. C'est la matière et la quantité avec l'âme présente. C'est bien évident, c'est l'âme présente dans la quantité de la matière, c'est l'âme présente dans le corps. Et c'est les deux qui forment l'individu. C'est pas la quantité de la matière seulement, c'est les deux. Et c'est ça que le philosophe doit être très attentif à montrer. Notre individualité provient de notre substance qui se réalise à travers le corps. Mais elle provient de notre substance. Notre individualité fait partie substantielle de ce que nous sommes. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Donc notre individualité va de fait se modifier à travers toute notre vie. Quand nous étions un tout petit enfant et quand nous sommes maintenant, nous ne sommes pas le même individu. Nous sommes le même individu substantiellement, mais il est fameusement modifié. C'est pas ? Évidemment, pour la mère, on aura toujours les mêmes yeux. Toujours le même visage, tu n'as pas changé. est restée exactement le même. Elle est heureuse de voir toujours, à travers l'enfant qui grandit, le petit enfant dont elle a eu le premier regard. Et c'est vrai, une mère regarde toujours un enfant, même quand il grandit, comme son tout petit enfant. C'est le premier regard, ce qui montre bien la continuité. Mais en même temps, il y a une très grande modification. Et alors, cette modification, elle provient de l'âme et du corps. Et donc, quand je parle de l'individuation, ne séparons pas. Comprenons que c'est le comment. Alors, à ce moment-là, c'est tout à fait différent. Mon individuation, c'est mon âme et mon corps. Et mon âme, du fait même qu'elle est dans un corps particulier, dans un corps qui est unique, immédiatement, mon âme se modifie dans son exercice. Elle reste substantiellement, identiquement la même, puisque c'est toujours un principe, mais dans l'exercice, mon âme est individualisée. Vous voyez, et ça c'est vrai, chacun d'entre nous, nous sommes individualisés dans notre intelligence, nous sommes individualisés dans notre cœur. Et c'est bien dans notre cœur profond, dans notre intelligence, donc dans notre âme spirituelle, que nous sommes individualisés. Parce que je ne peux pas exercer mon intelligence sans l'imagination, je ne peux pas exercer ma volonté sans les passions. Donc sans la réalité du corps, sans la réalité de l'individu. Donc c'est tout mon âme qui est transformée par mon corps, qui est transformée, modifiée par mon corps, qui est individualisée par mon corps. C'est pour ça qu'en réalité, vous voyez, la thèse de Don Scott dit quelque chose qui n'est pas juste, parce que l'âme n'a pas quelque chose par elle-même avant d'être unie au corps qui est individualisé. C'est en étant dans le corps que l'etcheitas de chacun apparaît. Notre gabriélité apparaît à partir de notre corps. Nous sommes un individu spécial à partir de notre corps, l'âme qui informe le corps. Mais c'est le corps transformé par l'âme. Oui, rapidement, je crois que ça vous situe un peu le problème. La difficulté du théologien, c'est que on oublie que le théologien regarde ça dans un regard de sagesse. Et le philosophe, donc dans un regard de sagesse, c'est-à-dire à partir de Dieu. Et le philosophe, lui, doit repenser l'individu dans son aspect génétique. Puisque c'est le pos. Et avec le pos, on a l'aspect génétique. Et un individu se repense toujours génétiquement. Parce que l'individu, il est dans le temps. C'est vrai, mais dans le temps. Quand on vous demande qui vous êtes, on vous demande toujours votre date de naissance. On ne demande pas la date de conception, ce serait plus difficile, mais on vous demande la date de naissance. La date de naissance, on va voir à quel moment vous êtes né, sous quelle planète, et à quel lieu vous êtes né. Et alors, à partir de là, l'individu est marqué dès le point de départ. Et puis on vous demande aussi, vous voyez, si de fait il y a des signes caractéristiques de cet individu. On voit très bien comment l'aspect de l'individu est dans le temps, la génésis, il y a une genèse de l'individu, tandis qu'il n'y a pas une genèse de l'âme. L'âme est créée par Dieu. Mais cette âme, elle se développe à travers le corps. Donc, je ne dis pas plus. Une fois que je comprends ce problème de l'individuation, je comprends comment le composé substantiel de l'âme et du corps est sujet de tous les accidents. Il est sujet de tous les accidents. Il est le noyau à partir duquel va se développer toutes mes activités. Et toutes mes activités se développe à partir de ce noyau substantiel. C'est à partir de là que je peux intégrer dans le problème de la substance le problème du sujet. Vous voyez, la substance est sujet par sa manière d'exister, par son pos. Je peux comprendre à partir de là comment les accidents, qui n'ont d'intelligibilité profonde que par la substance, n'existent que dans ce sujet. à partir de la composition matière et forme. Certains accidents sont du côté de l'âme et d'autres sont du côté du corps. La quantité est l'accident par excellence du côté du corps. Et les qualités sont les accidents par excellence du côté de l'âme. Mais les qualités passent par le corps ou des qualités sont au-delà du corps. C'est les qualités de l'intelligence et de la volonté, ce qu'on appelle l'esprit. C'est que l'âme a une possibilité d'être source de certaines puissances, de certaines qualités qui ne sont pas liées à des organes physiques, qui ne sont pas liées à des organes biologiques. L'intelligence et la volonté. L'intelligence et la volonté n'ont pas d'organes biologiques. Donc c'est faux de dire que l'intelligence, elle est dans le cerveau, comme on dit très facilement. On identifie le cerveau et l'intelligence. Non. Le cerveau est le siège de l'imagination et de la mémoire. De sorte que je ne peux pas penser sans l'exercice du cerveau. Ça, c'est très vrai. Et c'est pour ça que je peux arrêter la capacité d'exercer mon intelligence par le point de vue du cerveau. Mais l'intelligence est au-delà du cerveau. Mais ceci, ça fait partie du mystère, de ce que représente l'homme au point de vue substantiel. C'est qu'il y a quelque chose dans l'homme, au point de vue de sa substance, qui est au-delà du corps, qui émerge, comme dit saint Thomas. C'est l'émergence. Et ceci est compréhensible puisque l'âme est substance. Et donc elle n'est pas nécessairement entièrement immergée dans le corps. Elle subsiste en elle-même. Et si elle subsiste en elle-même, elle peut donc subsister d'une manière spirituelle, d'une manière incorporelle, parce qu'elle est substance. Alors reste un dernier problème. Une fois que j'ai précisé cela, vous voyez, j'ai précisé les trois grands aspects de la substance. Elle subsiste. Elle est source d'intelligibilité et elle est sujet individuel. Voilà les trois grands aspects de la substance. Je peux maintenant me poser la question, où y a-t-il substance? Ça, c'est une très grave question. C'est une question qui a été soulevée par la scolastique et c'est une question à laquelle je dois revenir. Où y a-t-il substance? Dois-je dire que partout il y a phusis, il y a ousia? Certaines phrases d'Aristote semblent bien indiquer. Mais est-ce que je puis suivre Aristote là? Ou est-ce que je suis obligé d'être plus attentif? Partout il y a phusis, il y a ousia. Qu'est-ce que ça veut dire? La phusis, la nature, elle est au niveau du devenir. Partout il y a un mouvement naturel, il y a phusis. Et ce mouvement naturel s'oppose à l'aspect artificiel. Partout il y a quelque chose qui se meut, qui est mu naturellement, il y a phusis. Donc c'est au niveau du devenir. L'ousia est au niveau de ce qui est. Alors, tout ce qui implique mouvement implique être. C'est évident. Le mouvement n'existe, ce qui est mu n'existe. Du moins, le mouvement, ce qui est mu, du fait même qu'il existe, il est. Donc je peux dire que tout ce qui est mu, tout ce qui est mu existe. C'est sûr. Mais est-ce que tout ce qui existe a en lui-même un principe d'autonomie dans l'ordre de l'être? Ça, c'est différent. Vous voyez le problème, hein? Est-ce que quand vous voyez l'eau, vous prenez un verre d'eau,
On peut dire qu'il y a une substance. Là. Ou est-ce que vous dites qu'il y a la nature de l'eau? C'est évident, il y a la nature de l'eau. L'eau a sa nature propre. Mais est-ce que c'est une substance? Quand vous voyez une pierre et que vous la coupez en deux, vous coupez la substance. Vous taillez la pierre. Vous la brisez en deux. Est-ce que vous brisez sa substance? Alors vous multipliez les substances de cette manière-là, par le point de vue de la quantité. Et donc, un tas de petits cailloux fait un tas de substances. Ça ne va pas très bien, c'est très gênant de dire ça. Les scolastiques tendaient à dire ça, parce qu'ils prenaient Aristote à la lettre en disant « partout il y a Phusis, il y a Ousia ». Or, il est évident qu'un petit caillou, ça a sa nature. L'eau, ça a sa nature. Alors, les nuages, si je vais encore plus loin, où est-ce qu'il y a une substance dans un nuage? N'est-ce pas? Il y a l'air, il y a l'air orageux. Et quand l'air orageux, la substance de l'air devient dangereuse. N'est-ce pas? Elle contient de l'électricité, ça devient très dangereux. Est-ce que dans le feu, vous avez une nature feu? Est-ce qu'il y a une substance? Vous voyez, c'est très délicat, ça. C'est très délicat. Est-ce que c'est une substance? Bon, lorsque je suis en face de la physique, lorsque je suis en face de l'âme, l'âme fait le vivant. Ah, le vivant a déjà une autonomie beaucoup plus profonde. Un petit animal a son autonomie, son organisation propre, son organisation vitale. Un arbre a son organisation vitale. Alors, y a-t-il une substance dès qu'il y a un vivant? Vous voyez le problème? Il faut au moins voir le problème. Il faut situer le problème. J'ai dit, il faut découvrir la substance par rapport à l'homme. Par rapport à moi-même. Là, c'est sûr. La substance de l'homme, non, l'âme de l'homme est une substance. Est-ce que je peux dire que l'âme de l'animal est une substance? Quelle est l'autonomie profonde dans l'ordre de l'être de l'animal? Il est dépendant de son espèce. Et la procréation est ordonnée à l'espèce, à la survie de l'animal. Alors, est-ce que la substance de l'animal, c'est son espèce? Ça ne va pas. Puisque la substance doit être une réalité qui existe. Vous voyez, c'est très délicat cette question-là, parce que c'est très vrai que l'animal est ordonné à l'espèce. L'animal, dans sa procréation, dans sa génération, est ordonné à l'espèce, la survie de l'espèce. Donc, d'une certaine manière, seule la survie de l'espèce serait substance. Mais alors, à ce moment-là, la substance serait abstraite. Elle serait l'eidos, elle serait une forme, mais elle ne serait plus un principe d'être. Autrement dit, c'est un problème très difficile. Il faut au moins considérer que c'est un problème très difficile et pas aller trop vite. En disant, partout où il y a animal, il y a substance. La substance de la vache. La substance de l'hippopotame. La substance du petit rat et du moustique. C'est très difficile de savoir s'il y a substance. Pour l'homme, c'est net. Mais pour les autres réalités, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Je crois qu'il faut d'abord dire que la philosophie première n'est pas faite pour connaître le monde animal et le monde physique. La philosophie première est faite pour connaître l'homme et Dieu. Le nous et Dieu. C'est ce que dit Aristote, et là, il a tout à fait raison. C'est pour connaître le nous et Dieu. Quand il s'agit de connaître l'animal, nous avons une nouvelle philosophie, la philosophie du vivant. Ce qui montrerait bien, vous voyez, qu'au fond, je ne peux rien dire par rapport au monde animal et par rapport au monde physique. Moi, je serais assez tenté de dire ça. Je ne peux pas savoir s'il y a vraiment une substance, étant donné la contingence que représente le point de vue animal. Au fond, il y a substance quand il y a un principe d'autonomie. Donc, quelque chose qui, d'une certaine manière, est au-delà de la corruptibilité. Or, l'animal est au-delà de la corruptibilité par le point de vue de la procréation.
tandis que l'homme est au-dessus de la corruptibilité par son âme propre, son âme spirituelle. Je suis au-delà de la corruptibilité par mon âme spirituelle. J'ai quelque chose en moi qui est une étincelle d'éternité. Mais l'animal n'a pas cette étincelle d'éternité. Il est éternel uniquement par le point de vue de la procréation. Or, la procréation, ce n'est pas au niveau de l'individu, c'est au niveau de l'espèce. C'est donc l'espèce dans l'individu qui est une substance. Alors, à ce moment-là, vous voyez, au fond, vous n'avez plus une véritable substance. Vous n'avez plus un véritable principe d'autonomie. C'est la nature. Vous avez une nature animale, une nature de tel animal, et vous n'avez pas une substance, principe d'autonomie. Je serais assez tenté de dire ça, vous voyez. Assez tenté de dire, ne cherchons pas s'il existe une substance dans l'animal ou pas, parce que vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez dire la substance qu'au niveau de l'homme. Vous ne pouvez pas le dire qu'il y a substance dès qu'il y a de l'eau. Alors, ce que vous pouvez dire, alors ça, ça corrige, hein, mais je dis l'eau existe. Je dis, la vache existe. Donc, si elle existe, il y a donc un principe radical d'être. C'est vrai. Il y a un principe radical d'être. Mais ce principe radical d'être, où est-il? Je ne peux pas le savoir. Mais est-ce que c'est la totalité de l'eau qui est la substance eau? Est-ce que c'est toute l'espèce chien ou chat qui est la substance chat? Le petit chat dans son individualité, il est trop fragile, trop contingent. Vous voyez, c'est une passion, le chat. C'est pas l'homme qui est une passion, mais c'est le chat. L'homme est une passion inutile. Le chat est une passion inutile, c'est vrai. Parce que dans sa contingence, il passe. Il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui reste de tous les chats qui ont vécu sur notre monde d'aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui reste? Rien. Passion inutile. C'est très curieux, ça. Parce que ça permet de dire, vous voyez, que l'animal est une passion inutile. Et Sartre a saisi ça, il a ramené l'homme à l'animal. Puisqu'il n'a pas saisi l'esprit. Et en n'ayant pas saisi l'esprit, évidemment, l'homme n'est qu'une passion inutile parce que la génésis l'emporte. Mais l'histoire des roues dans ça l'emporte. Alors voilà la relativité. Il n'y a que l'espèce qui survit, et donc d'une certaine manière, il n'y a que l'espèce qui est substance. Mais c'est une substance très particulière, puisque la substance demande d'être un individu. La substance demande d'être un principe d'autonomie. Or là, il n'y a pas de principe d'autonomie au sens absolu. Donc vous voyez, je crois qu'il faut bien saisir ça. C'est là où il faut purifier ce regard des scolastiques pour bien comprendre que la substance n'existe que pour l'homme. Et c'est tout à fait légitime, vous voyez. Comme il n'y a qu'une seule définition que je peux donner, celle de l'homme, animal raisonnable, il n'y a qu'une seule définition. Et cependant, la définition existe, même s'il n'y a qu'une seule définition, celle de l'homme. De même, au point de vue métaphysique, même si la substance ne peut être saisie qu'au niveau de l'homme, c'est suffisant pour qu'elle existe. Puisque tous les animaux et toute la nature est relative à l'homme. Vous voyez? Bon, je ne dirai pas plus, mais vous y réfléchirez. On peut y réfléchir là-dessus, hein, on peut très bien avoir des idées différentes. Alors, on m'a posé cette question. L'intelligibilité et l'être des catégories sont-elles toutes deux prosaines? Alors, ça, c'est un problème très, très particulier. Le point de vue de l'intelligibilité. Quel est le rapport entre l'intelligibilité et l'être? L'intelligibilité est comme une propriété de ce qui est. C'est quelque chose de second. Je ne peux pas mettre égal. Être égal intelligibilité. Non. Je peux dire que tout être, dans la mesure où il est intelligible. Donc l'intelligibilité est une propriété de l'être face à l'intelligence. Tout être parle à l'intelligence. Tout être peut déterminer l'intelligence. Et donc, si tout être, du fait même qu'il est, peut déterminer l'intelligence, je peux dire que l'intelligence est comme une propriété de ce qui est. Alors, dans les catégories, il y a donc un parallélisme entre l'intelligibilité et l'être. Or, les catégories, au niveau de l'être, sont toutes dites être à cause de la substance. La qualité est être parce qu'elle est reçue dans la substance. C'est par la substance qu'elle est. Alors, est-ce qu'on peut dire que les catégories sont intelligibles à cause de la substance? Vous voyez le problème? Eh bien, je crois que du côté de l'intelligibilité, les catégories ont une indépendance plus grande. Donc, ce n'est pas au sens absolu pros-en. Je ne peux pas dire que la quantité, est intelligible à cause de la substance. J'ai pu dire tout à l'heure que la substance est source de l'intelligibilité de la quantité, pour donner à la quantité son intelligibilité dans l'ordre de l'être. Mais la quantité a une certaine intelligibilité indépendamment de la substance. Mais cette intelligibilité est univoque. Alors je dirais, quand il s'agit...